je vous présente Karim rapidement. Donc, c'est un astronome spécialiste donc, des effets de l'antigravitationnel à grande échelle. Il a soutenu sa thèse en physique théorique en 2001 au service de physique théorique du CEA à Saclay, donc, qui portait sur ce sujet, l'antigravitationnel et leur effet sur le fond de rayonnement cosmologique et sa polarisation. Il a par la suite travaillé en tant que postdoc à New York, aux États-Unis, toujours sur ces problèmes, sur ces questions de l'antigravitationnel, également d'énergie sombre. Puis il est revenu en France, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, où il s'est impliqué fortement dans la mission Planck, dont vous avez probablement entendu parler et dont on va probablement beaucoup entendre parler ce soir, et notamment l'instrument HFI. Et depuis 2005, il est astronome, donc il a obtenu un poste d'astronome, de chercheur, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc il continue à travailler sur les effets de l'antigravitationnel, donc dans le fond du rayonnement cosmologique. Il travaille sur beaucoup d'autres domaines dans Planck. Il est très impliqué dans l'expérience Planck. Il est impliqué également dans le projet de mission dans lequel l'IAP est très, très impliqué également, la future mission Euclide de l'Agence spatiale européenne. Et puis, il est également directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, ce soir, il va nous faire une conférence donc, avec comme titre « Dernières nouvelles du rayonnement fossile », donc avec un état des lieux sur ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être quelques sujets controversés dans lesquels on essaiera d'en savoir plus. Donc, je t'en prie, Karim.
Merci. Merci beaucoup. Attendez la fin, peut-être. Donc oui, je vais vous parler du rayonnement de fond cosmologique ou rayonnement fossile, qu'on appelle aussi en anglais, malheureusement, Cosmic Microwave Background, qu'on abrège très souvent CMB. Donc je vous prie de m'excuser par avance si de temps en temps ma langue fourche et que je parle de CMB. Je ne sais pas, vous comprendrez le terme. Donc, je vais vous parler d'abord, en quelques mots, du Big Bang, du modèle standard cosmologique, et d'où le rayonnement fossile arrive dans ce modèle standard, et pourquoi il est aussi important, pourquoi on veut l'observer. Je vous parlerai du rayonnement fossile, comment est-ce qu'il est émis, dans quelles conditions, et ce qu'on peut espérer en apprendre sur l'univers primordial. Je vais vous parler très rapidement de l'histoire de son observation, et puis je vais longuement vous parler de comment on peut observer ce rayonnement fossile avec le satellite Planck, je décrirai longuement Planck, et surtout je vous parlerai des résultats principaux qui ont été révélés en mars 2013, car les nouveaux résultats ne sont pas encore disponibles. Ils arriveront le 1er décembre, et je vous en dirai quelques mots aussi, de ce qui va arriver, pas des résultats eux-mêmes, je n'ai pas le droit. Et puis je finirai, parce qu'en fait, le rayonnement fossile est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans le courant de l'année, avec une annonce fracassante, je reviendrai dessus. Et je vous dirai aussi ce qu'on en pense dans Planck, des papiers qui ont été publiés sur le sujet, et de ce qu'on peut attendre dans l'avenir. Donc voilà, on va parler de quelque chose qui est quand même assez vieux, ce rayonnement fossile, et étonnamment, alors qu'il est très froid et très vieux, il a une actualité brûlante. Donc d'abord, le Big Bang. Ce Big Bang, en fait, c'est le modèle le plus standard en fait, qu'on ait aujourd'hui pour décrire notre univers et son évolution. Et en gros, il repose sur les travaux, entre autres, ces quatre personnages, Einstein, bien sûr, pour la géométrisation de la gravitation, Lemaître et Friedman, qui ont utilisé les équations d'Einstein pour décrire l'univers en expansion dans lequel nous vivons, et puis Gamow, qui, entre autres choses, a prédit, justement, l'existence de ce rayonnement fossile. Donc, ce modèle nous dit qu'en fait, il y a 14 milliards d'années, l'univers était très chaud, très dense, et qu'après un événement, qu'on appelle le Big Bang, il s'est mis à entrer en expansion. Donc à ce moment-là, il est vraiment très chaud, très dense, très rapide. C'est vraiment la limite de notre physique, il y a peu de choses qu'on sait dire à ce moment-là. Et ce qu'on veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, pour savoir ce qui s'est passé là, il va falloir observer notre univers, essayer d'en déduire ce qui s'est passé pendant ce tout premier moment. Alors, peu de temps après le Big Bang, une minute après, l'univers est toujours aussi chaud, toujours aussi dense, enfin un peu moins, bien sûr. Il y a quelque chose de très important qui apparaît, c'est la formation des premiers noyaux. Alors, les noyaux plus complexes que l'hydrogène, c'est quelque chose qui est un des piliers. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est une des choses qui est extrêmement importante dans l'univers, un des résultats extrêmement importants. On observe l'abondance des différents éléments dans l'univers. Et ça, c'est entièrement lié à cet événement ici. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus moi, qui est 380 000 ans après Big Bang, mettons 400 000 ans, parce que l'univers a continué de s'étendre, qu'il est nettement moins chaud, il est maintenant plus qu'à 3000 Kelvin, justement, est émis ce rayonnement fossile. Donc on voit qu'en gros, c'est un événement qui est extrêmement proche du Big Bang. C'est une des raisons, je vais y revenir bien sûr, pour laquelle on a envie de l'observer. Puis après, il ne se passe pas grand-chose pendant assez longtemps, jusqu'à un événement qui est encore une fois extrêmement important, qui est l'allumage des premières étoiles. Alors là, j'ai mis une date, c'est un peu au dos mouillé, car on ne sait pas, c'est une des questions, quand exactement se sont allumées ces premières étoiles. Et c'est une des choses, je n'ai pas le temps de venir aujourd'hui, mais c'est une des choses qu'on observe et qu'on contraint, entre autres, avec les données du rayonnement fossile. Et puis après, l'univers continue à s'étendre, puis à se peupler, bien sûr, des galaxies, amas, etc. Et nous, ben, nous sommes ici, et nous essayons d'observer tout ça. Donc on commence, on est là. L'univers, maintenant, est très étendu, très froid, très dilaté. Et puis, on essaye de comprendre ce qui s'est passé ici. Et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici, à ce moment-là, on a besoin d'observer tout ça. Et évidemment, ce qu'on va vouloir observer, c'est ce rayonnement fossile. Donc ce rayonnement fossile, comme je vous l'ai dit, qu'on nomme aussi rayonnement fond cosmologique, rayonnement fond micro-ondes, cosmic microwave background, c'est de ça que je vais vous parler plus précisément maintenant, après ce rapide, trop rapide début. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi ce rayonnement fossile est émis, comment Gamow a prédit qu'il y avait ce rayonnement fossile, et ce qui nous apprend vraiment. Donc revenons au début. Donc l'univers après le Big Bang, il est très chaud, très dense, etc. Il est rempli d'un plasma de protons et d'électrons. Et ce plasma de protons et d'électrons, en fait, ils sont en constante interaction via des photons. Donc il faut imaginer une sorte de soupe, comme présenté ici, avec ces protons et ces électrons qui se tapent dessus, qui échangent des photons entre eux, qui sont dans la mélasse de ce plasma. Et ce qui se passe, en gros, c'est que des protons et des électrons se rencontrent, forment un atome d'hydrogène, émettent un photon. Ce photon, il va pas bien loin, son petit bonhomme de chemin, pas très loin, il va retaper sur un autre atome d'hydrogène qui vient juste de s'être créé, et il va le rayoniser en protons et en électrons. Et c'est ce qui se passe. L'univers est très chaud, très dense, une soupe, les photons sont piégés dans le plasma, l'univers est complètement opaque. Les photons vont pas très loin, ils sont prisonniers dans ce plasma. Et bon, ça continue pendant un bon moment, en gros, 380 000 ans. Mais pendant ce temps-là, notre univers, il est en train de s'étendre, et au fur et à mesure qu'il s'étend, il se refroidit. Et il arrive un moment, lorsqu'il s'est suffisamment étendu et suffisamment refroidi, et que sa température atteint 3000 Kelvin, il arrive un moment où ces photons n'ont plus assez d'énergie pour aller ioniser les atomes d'hydrogène qui se forment continuellement. Donc on recommence. Protons et électrons forment des atomes d'hydrogène, des photons sont émis, mais ces photons vont taper sur un atome d'hydrogène et être absorbés et refaire des protons et des électrons et rester dans le plasma. Mais si ce photon-là n'est plus assez énergétique, ce qui se passe, c'est qu'il ne va plus pouvoir rayoniser un atome d'hydrogène. Cet événement, on appelle la recombinaison, et il se passe de façon assez brusque, en fait. Et donc, assez brusquement, au moment où l'univers est assez étendu, assez froid, on passe d'un moment où l'univers était rempli de plasma, de protons et d'électrons essentiellement, opaque, où les photons étaient prisonniers dedans, à brutalement un moment où les photons ne sont plus assez énergétiques, les atomes d'hydrogène se forment, les protons et les électrons se recombinent, et les photons, ils ne vont plus les ioniser, donc ils sont libres. Et brutalement, ces photons sont émis. Ils sont émis dans toutes les directions, de partout. Quasiment au même moment partout. Donc ici, là où je suis, il y avait un photon qui est parti par là-bas, un autre qui est parti par là-bas, un autre qui est parti par là-bas, lorsque les protons et les électrons sont recombinés. Il y a des photons de partout qui sont partis dans toutes les directions. Seulement nous, quand on a essayé d'observer ces photons, on n'en voit qu'une seule surface autour de nous sur le ciel. D'accord ? Donc ce que l'on voit, c'est s'est passé au moment de sa dernière diffusion, partout autour de nous sur le ciel, dans toutes les directions où on regarde. Donc ce, là-bas, loin, 400 000 ans après le Big Bang, un photon a été émis dans ma direction qui provient de cet événement de la recombinaison. Puis là-bas aussi, on a un autre. Et je l'observe aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est partout sur le ciel autour de nous, cet événement de recombinaison. Ce qu'on voit, en fait, c'est une photosphère, et c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà le Soleil. Ce qui se passe dans le Soleil, c'est à peu près la même chose. Hein. Le centre du Soleil, c'est un plasma. On ne voit pas l'intérieur du Soleil. Ce qu'on voit, c'est uniquement la photosphère, l'endroit où, pour la dernière fois, les photons ont interagi avec le plasma dans le Soleil et se sont retrouvés libres et ont été émis dans notre direction. Donc le Soleil, c'est une boule qui est là, enfin, boule-là, je ne sais plus où elle est, de 16 heures. Là, le rayonnement fossile, il est tout autour de nous parce qu'il était là, ici, aussi. Mais évidemment, là, c'est un extraterrestre là-bas qui va le voir, ou personne. Mais les photons qui viennent de là-bas, je les vois, les photons qui viennent de là-bas, je les vois, les photons qui viennent de là-bas, je les vois. Donc voilà ce que nous voyons lorsque nous observons le rayonnement fossile. Nous voyons cet événement qui est le moment où l'univers est devenu suffisamment froid pour que le plasma qui le contenait se combine essentiellement à l'atome d'hydrogène et que toute l'énergie, tous ces photons soient libérés partout dans toutes les directions. Et ce que l'on voit, c'est uniquement cette photosphère, cette surface, au moment où c'est arrivé. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on voit sur cette surface ? Ben, je vais vous le montrer, en fait, et je vais vous le montrer d'une façon assez particulière, parce que, comme c'est une surface autour de nous, j'ai besoin de projeter la voûte céleste autour de nous, et donc vous allez voir beaucoup de ces ovales ici, qui sont une projection particulière d'une sphère qui est assez pratique à utiliser. Donc si je regarde ces photons du rayonnement fossile partout autour de nous, eh bien ce que je vois, ce n'est pas très intéressant. En fait, c'est un rayonnement de corps noir à 2,7 Kelvin. Dans toutes les directions, c'est un excellent corps noir à 2,7 Kelvin. On voit la même chose partout. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc, après la recombinaison, le rayonnement est émis dans toutes les directions, il n'interagit presque plus avec la matière, il est refroidi et décalé vers le rouge par l'expansion, et donc de 3000 Kelvin où il a été émis, il est maintenant observé à 2,7 Kelvin. Tous ces photons nous parviennent, on voit que ceux émis dans notre direction, bien sûr, et la distribution spectrale de ce rayonnement de fond suit une bonne vieille loi du corps noir. Donc à l'époque, c'était une loi du corps noir à 3000 Kelvin, maintenant elle a été décalée vers le rouge à 2,7 Kelvin, et c'est ça qu'on voit. Et je voudrais m'arrêter un moment sur ce résultat. C'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois ce soir. C'est que c'est un résultat qui est assez incroyable. Vous voyez, on est en train de parler de quelque chose qui s'est passé 400 000 ans après le Big Bang, à peu près il y a 14 milliards d'années. Comme on arrive à voir des photons qui ont été émis à cette époque-là, en regardant en bonne longueur d'onde, en cherchant des photons qui ont la bonne énergie, on est capable de mesurer la distribution spectrale. Et notre théorie nous prédit que ceci doit être un corps noir à cette température. Et on la voit avec une précision vraiment incroyable. Est-ce que vous saisissez moi, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on soit capable de faire toutes ces prédictions avec des choses finalement assez simples et qu'on arrive à la conclusion que voilà ce qu'on devrait voir. Et puis, on va le mesurer et c'est ça qu'on voit. Et ça a été résumé assez bien par ce dessin pas très poli. Donc c'est un dessinateur de comics assez geek, à vrai dire, qui a de bonnes bases scientifiques, et qui résume ça ainsi. Je ne vous le traduirai pas, je vous laisserai le traduire tout seul. Mais il n'empêche, c'est quand même assez étonnant. Hein. On est en train de parler de quelque chose, encore une fois, presque 14 milliards d'années. On le prédit, on le mesure, et c'est exactement ça. Et les barres d'erreur sont tellement petites que c'en est une blague. Alors ça, c'est un des premiers résultats. Ce résultat a été obtenu... Ça a été obtenu par Kobe, il y a eu un prix Nobel, j'y reviendrai. Mais c'est quand même un résultat magnifique. Et dans la suite, vous allez voir qu'on va voir plein d'autres choses qui ressemblent exactement à ça. L'accord avec notre modèle théorique, quand même assez simple, est incroyablement bon. Donc, une fois qu'on a retiré cette partie constante, qui n'est pas très intéressante, mais quand même, on voit autre chose. Et là, on commence à voir quelque chose qui a deux couleurs, qui est d'un côté plus froid et de l'autre plus chaud. Vous savez, pour la première fois par Kobe, encore une fois. Et donc, ce sont des petites variations. Donc, je vous ai dit, il est à 2,7 Kelvin quasiment partout. En fait, non, il y a des petites variations suivant la direction dans laquelle on regarde. Donc, je vais me tromper de direction, mais en gros, par ici, il est plus chaud, puis par là, il est plus froid. Et ça, en fait, on comprend tout à fait ce que c'est. Vous avez tous entendu un effet Doppler au passage d'une ambulance ou d'un camion de pompiers. Hein. Vous êtes derrière, vous entendez pim, pom, pim, pom, puis vous êtes devant, vous entendez pim, pom, pom. C'est juste l'effet Doppler. Il se passe exactement la même chose ici. En fait, ce qu'on est en train de voir dans cette image qui est plus chaude d'un côté, plus froide de l'autre, c'est tout simplement que nous, notre galaxie, sommes en train de nous déplacer par rapport au rayonnement fossile. Donc il y a le même effet Doppler sur la lumière, et donc on est plus froid d'un côté, plus chaud de l'autre, et grâce à ça, entre autres grâce à Planck, on est capable de mesurer la vitesse à laquelle nous nous déplaçons par rapport au rayonnement fossile. Alors, encore une fois, quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir, moi qui me trouble aussi beaucoup, c'est on nous a appris qu'il n'y avait pas de référentiel privilégié, etc., etc. Et là, on a un sacré référentiel, celui du rayonnement fossile. Et on mesure notre vitesse par rapport au rayonnement fossile. Encore un résultat assez magique. Bon, ça c'est très intéressant si on veut savoir à quelle vitesse on va et si on fait un excès de vitesse. Mais on peut peut-être faire mieux, peut-être des choses plus intéressantes que ça, sinon je ne vous aurais pas fait venir ce soir. Et donc on retire ce dipôle, parce qu'une fois qu'on sait dans quelle direction on va, on sait l'enlever. Et maintenant on va chercher des modulations de température dans les différentes directions du ciel, qui sont encore plus petites. Tout à l'heure, on était avec 2,7 Kelvin. Et maintenant, on est à 2, 10-4 ici. Et ça, ça commence à être extrêmement intéressant. Et ça, c'est un des résultats principaux de Planck. Voilà. Sur cette surface de diffusion, sur cette photosphère, on est en train de voir des endroits où la lumière qui nous parvient est un petit peu plus chaude, et d'autres où elle est un petit peu plus froide. Exactement comme quand on regarde le soleil, on va voir des endroits qui sont un peu plus chauds, un peu plus froids. En moyenne, à peu près tout partout pareil, il y a des toutes petites variations de température. Et ce sont ces toutes petites variations de température qui vont nous intéresser. Qu'est-ce qu'on voit en fait ? Alors si je reviens à l'image du début, avec mon plasma, je vous ai montré une soupe qui était bien homogène. En fait, elle n'était pas tout à fait homogène. Et c'est extrêmement important que cette soupe ne soit pas tout à fait homogène au début. En effet, si notre univers est homogène au début, c'est très difficile de lui faire créer des excès de densité ou des défauts de densité. On a besoin d'avoir des endroits où il y a un peu plus de matière, des endroits où il y a un peu moins de matière, parce qu'il faut bien qu'on explique que ben, nous, on est là, il y a une galaxie, un amas autour de nous, et puis qu'ailleurs, il n'y a rien. Il y a quand même des toutes petites variations de la densité dans l'univers. Si on était homogène, ce ne serait pas très intéressant. Et pour expliquer ça, il faut que dans ce plasma, au début, il y a eu des toutes petites perturbations de la densité, qui a un petit peu plus de matière quelque part, un petit peu moins de matière quelque part, des grumeaux, si vous voulez, dans cette soupe du début. Alors, ça, c'est extrêmement important, parce que pour expliquer ça, il faut qu'on ait un modèle d'univers qui inclut un processus qui nous permet de créer, d'une façon ou d'une autre, ces grumeaux au moment du Big Bang. Alors, il y en a plusieurs de modèles. Il y a un modèle dont vous avez peut-être entendu parler, le modèle le plus simple, qui a l'air de mieux marcher aujourd'hui, qui s'appelle l'inflation. Mais il y a d'autres modèles, des modèles qui utilisent des défauts topologiques, qui marchent plus ou moins bien, des modèles où on essaie de dire « Ah, mais il s'est passé quelque chose avant le Big Bang », ou « Il y a eu un rebond » ou quelque chose. Enfin, énormément de modèles qui essayent de répondre à cette question « Comment se fait-il qu'il y ait pu avoir des grumeaux avant ?» Mais des grumeaux, on sait qu'il y en a, parce que ces grumeaux, si on met en marche l'attraction gravitationnelle tout simplement, ben on arrive à créer des grandes structures dans l'univers, donc on voit nos amas, nos galaxies, etc., ce qu'on voit aujourd'hui. Et ces grumeaux, c'est aussi ça, en fait, qui explique ces petits excès de température et ces petits défauts de température. Ce que l'on voit sur cette surface de dernière diffusion, on voit plus chaud et plus froid, c'est la signature qu'il y avait effectivement des grumeaux dans cette soupe cosmique, et le niveau de différence de température correspond tout à fait avec, si on met en marche la gravité, les excès ou les défauts de densité qu'on voit dans l'univers. Alors, une façon de voir ça aussi, une simulation numérique, qui a été faite ici par des collègues. Donc un grand jeu, enfin un peu plus qu'un jeu, c'est d'essayer de simuler l'évolution de la distribution de matière dans notre univers. On fait ça en faisant quoi ? Eh bien, on se donne des conditions initiales, dont les propriétés sont directement tirées de ce qu'on voit dans le rayonnement fossile. Et puis on met en marche la gravité, et puis on laisse les choses évoluer. Et vous voyez ici, là, tout un paquet d'objets qui sont créés sous vos yeux au fur et à mesure. On va peut-être le remettre au début et vous expliquer en détail ce que vous êtes en train de voir. L'univers est en expansion, c'est pour ça qu'on vous montre, ben ça c'est un mégaparsec qui devient de plus en plus petit, parce que l'univers est en train de s'étendre. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de structures qui rentrent dans notre champ de vision. Parce que Ce qui est vert, là, en fait, alors ce n'est pas la matière noire, c'est le gaz, mais elle suit très très bien la matière noire. Vous voyez qu'il se forme ces filaments sur lesquels le gaz est en train de s'effondrer, puis de ces filaments s'effondre vers des objets qu'on voit au point nodo, des objets qui vont être des galaxies, des amas. Puis alors les choses rouges autour, c'est la température du gaz autour. Ça, c'est une simulation extrêmement avancée qui prend en compte non seulement la gravité, mais aussi tous les effets compliqués de la physique baryonique. Alors l'échelle de temps, alors c'est ce qui est donné ici. Ce que vous voyez en bas, là, c'est le redshift. Donc on est parti d'un redshift à peu près 40. Donc c'est le décalage vers le rouge. Combien on a décalé vers le rouge. Donc le rayonnement de fond, le décalage vers le rouge est à peu près de 1000. Là, on est parti bien après le rayonnement de fond, sinon on s'ennuie pendant longtemps. Hein. Donc on est parti d'un redshift de 40, mais entre le rayonnement de fond, un redshift de 1000 et un décalage vers le rouge, pardon, de 40, on sait calculer assez facilement l'évolution de la distribution de matière dans l'univers, parce que elle est quand même assez, les excès de densité et les défauts de densité sont suffisamment faibles pour qu'une approximation linéaire suffise. On est capable de faire des conditions initiales à un décalage vers le rouge de 40, puis on laisse là évoluer. Et vous voyez, c'est tellement cher à calculer, on n'est même pas arrivé jusqu'à 0, qui serait aujourd'hui. Là, on est à 0,6, on est encore loin, mais la machine continue à mâchonner et on finit par y arriver. Voilà. Donc, je reprends. Ces photons, 400 000 ans après le Big Bang, ils nous parviennent. Ils ont un rayonnement de corps noir qu'on mesure avec une précision incroyable. Et ils ont des toutes petites différences en température qui dépendent de la direction sur le ciel. Ces toutes petites différences de température sont la signature des inhomogénéités primordiales de la distribution de matière dans notre univers. Ceux-ci sont les graines autour duquel vont se créer les grandes structures qu'on voit dans notre univers. Galaxies, amas, etc. Et c'est ça qu'on observe. Donc on est en train d'observer l'univers et comment il était organisé 400 000 ans après le Big Bang. Et c'est ça qu'on cherche, que les chercheurs cherchent à analyser. Malheureusement, les chercheurs ne savent pas tout décrire de cette carte. Notre modèle nous permet de prédire énormément de choses de cette carte, mais pas tout. Il ne nous permet pas de prédire que par ici, il y avait plus de matière, et que par là, il y en avait moins. Ça, on est complètement incapable. Si je savais dire ça, ça veut dire énormément de choses sur l'univers. Ce qu'on sait dire, par contre, c'est quelles sont les propriétés statistiques de cette carte. Ou plus précisément, ce que notre théorie nous permet de calculer, étant donné une théorie de l'univers, avec quelque chose qui explique la création de ces inhomogénéités primordiales, etc., etc. Notre théorie nous permet de calculer, c'est de dire que s'il y a un excès de matière, quelque chose de plus chaud dans cette direction-là, il y a une certaine probabilité qu'il y ait un excès ou un déficit de matière dans une autre direction. On sait faire ça pour toutes les ouvertures angulaires sur le ciel. C'est ça que notre théorie nous permet de dire, avec une excellente précision. Et entre autres, ce que notre théorie nous permet de dire, c'est qu'on s'attend à ce que la taille caractéristique de ces excès de densité ou de ces défauts de densité soit de la taille de l'horizon à l'époque de la recombinaison. Et on sait calculer ça, et ça devrait être à peu près au niveau du degré. Et ce que je vous montre ici, ça, ce sont les données de l'expérience Planck. C'est exactement là où on l'attend. Et encore une fois, si on fait passer notre théorie d'univers, elle prédit la courbe verte, passe extrêmement bien par ces points. Je vais refaire un coup, parce que c'est quand même assez incroyable. Et c'est le pendant de la première image que je vous ai montrée. Voilà. Donc ceci, c'est la courbe mesurée sur la carte que je vous ai présentée, qui dit que si j'ai un excès de température, quelque chose de plus chaud ou plus froid dans cette direction-là, j'ai une certaine probabilité d'avoir la même chose ou quelque chose de différent dans une autre direction. Cette courbe, on l'appelle souvent un spectre de puissance. Elle est, c'est la transformée de Fourier, pour ceux que ça intéresse, du moment à deux points en fonction de l'ouverture angulaire. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a là où l'ouverture angulaire sur le ciel, ouverture, à quelle taille sur le ciel ça correspond, qui n'est pas du tout linéaire, tandis que ceci est linéaire. Okay. Donc ça, ce sont les points avec les barres d'erreur qu'on mesure avec Planck. Et encore une fois, ça, c'est notre théorie qu'on a ajustée sur ces points, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas tous les paramètres de notre théorie. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a cet accord vraiment surprenant, c'est ce qu'on cherchait, c'est un accord qui est extrêmement bon, avec un modèle qui a une poignée de paramètres. Là, on est en train de parler d'à peu près 6 paramètres. C'est encore une fois, c'est donc auparavant j'avais un modèle à un paramètre qui est la température, et j'avais un accord incroyable entre les points de données et la courbe, et ici on a plus qu'un modèle à 6 paramètres. Je voudrais faire un, encore une fois pour donner une idée de l'avancée des choses, ça c'est une image de 98, peu de temps après que je commence ma thèse. Ce sont les mêmes données mais obtenues par d'autres mesures. Donc là-dedans, on a même pas les données de Kobe, parce que ce serait juste un point là par là. C'est toute une série d'observations du rayonnement fossile à partir de télescopes qui étaient soit à terre, soit sur des ballons. En 98, on a eu ces points rouges là, et tout le monde était extrêmement excité. C'était la première fois qu'on voyait ici cette première bosse là, le premier pic, qui justement nous dit que la taille caractéristique des plus grosses, c'est que cette température était aux alentours du degré. C'est un résultat incroyable. 98, on était extrêmement excités. 2013, le même rayonnement fossile, voilà ce qu'on obtient aujourd'hui. On a eu une avancée incroyable là-dessus. Et on mesure à quel point, on sait un peu moins de 20 ans, on a fait des progrès incroyables sur notre compréhension, la description de l'univers primordial. Donc je vous ai expliqué par grands traits d'où venait ce rayonnement fossile, pourquoi il était important pour les chercheurs de l'observer, ce qu'on pouvait y apprendre. Maintenant, je vais passer quelques temps sur comment est-ce qu'on l'a observé en fait et quels sont les résultats importants dans le domaine. Alors le premier, bien sûr, qui a valu un Nobel à ses découvreurs, Pendias et Wilson, c'est la première mesure du rayonnement de fond cosmologique au Bell Labs. Tout ce qu'ils ont vu, c'est ce rayonnement à 2,7 Kelvin. Ils ne cherchaient même pas ça. Ils l'ont vu par hasard. C'était d'excellents expérimentateurs parce qu'ils avaient cette friture qui correspondait à un rayonnement à 2,7 Kelvin. Donc, ils ne savaient pas d'où ça venait. Ils ont tout essayé. Ils ont nettoyé. À un moment, ils ont même pensé que c'était peut-être des fientes de pigeons qui nichaient dans leur grand antenne. Ils ont nettoyé 4 fois. Ils ont tout vérifié. Et puis, il se trouvait que quand même, quand on est au Bell Labs, on n'est pas très loin de Princeton, etc., et qu'ils ont discuté avec des gens qui, eux, étaient en train d'essayer de mesurer ce machin complètement fou, prédit par Gamow, qu'il y aurait un rayonnement de fond cosmologique qui baignerait tout l'univers, et qui était, alors, je ne sais plus, Gamow, je crois qu'il le mettait vers 10 Kelvin. Enfin, c'était pas très loin, mais il n'était pas dessus. Quand ils ont parlé, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que c'était effectivement ça qu'ils étaient en train de mesurer. Et évidemment, ceci, pas parce qu'ils l'ont vu par hasard, mais parce qu'ils ont compris ce que c'était, ça leur a valu un prix Nobel. Et puis, deuxième moment important, il y a eu d'autres mesures entre les deux. Je vais juste donner quelques clés dans l'histoire du rayonnement fossile. C'est la mission Kobe. Alors, cette mission a été construite pour mesurer autre chose, le rayonnement fossile. C'est une mission aussi qui est expérimentalement et vraiment quelque chose de vraiment très chouette. C'est cette mission qui nous a donné cette courbe du corps noir du rayonnement fossile avec une telle précision. Il faut bien voir que pour obtenir une précision pareille sur un satellite embarqué, il faut avoir une calibration d'une précision extrême. C'est-à-dire ce satellite embarqué, un corps noir, c'est des mesures différentielles, c'est quelque chose de... C'est vraiment une très belle expérience. Et non seulement ça, mais Kobe a vu pour la première fois le dipôle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait qu'on est en train de bouger. On s'y attendait, mais c'est bon de le voir. Pas assez bien pour mesurer notre vitesse dans l'univers, mais tout de même, on voit des choses dessus. Et puis pour la première fois aussi, Kobe a mesuré, mais à une échelle très 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 large, le fait qu'il y avait effectivement des excès de température, tout petits, aux alentours de là où on l'espérait, dans les différentes directions du ciel. Cette mission a valu aussi le prix Nobel à leurs principaux investigateurs, Smoos et Mather. Et puis, de nombreuses mesures complémentaires, bien sûr, parce qu'une fois qu'on sait qu'on est bien avec 7 Kelvin, c'est vraiment un corps noir, qu'on a cet accord incroyable, qu'on voit qu'il y a effectivement, comme le prédit la théorie, des légères anisotropies de température qui dépendent de la direction, et qu'on sait que ces anisotropies de température vont nous donner une signature des perturbations primordiales, des perturbations matière primordiale dans l'univers, on veut les voir. Et donc, de nombreux observatoires sols ont été construits pour voir plus précisément ces perturbations que Kobe voyait mal. Alors, un des plus importants, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Boomerang. Les premiers résultats sont sortis en 1998. donc, qui a fait un vol autour du pôle sud, plusieurs vols d'ailleurs, mais un principal, où ils ont, qui a observé pour la première fois le premier pic, et on a même vu plusieurs pics ici. Alors en fait, cette courbe, vous l'avez vu, elle fait plusieurs pics les uns après les autres, et dans la hauteur de ces différents pics, etc., on peut lire, on est entraîné, ou plutôt avec un gros ordinateur, les propriétés de notre univers et les différents paramètres cosmologiques. Donc là, on avait déjà trois pics, le troisième était plus ou moins bien vu. Un autre événement important, ça a été le satellite WMAP. Alors en fait, après les résultats de Kobe, il y a eu un intérêt énorme pour le rayonnement fossile, je vous l'ai dit, il y a eu plein de missions au sol, mais aussi les chercheurs aux États-Unis, en Europe, se sont mis en place pour construire des satellites successeurs de Kobe qui auraient la résolution suffisante pour aller voir ces anisotropiques températures. Et puis d'autres choses, dont je vous parlerai après. Et il y a eu en fait deux missions concurrentes qui ont été construites, une WMAP et une Planck. Planck après. Les deux reposaient sur deux idées très différentes. Planck, c'est quelque chose de très gros, ultime. WMAP, c'était l'époque du rapide, pas très cher. Et donc c'était un pari qui a été plutôt réussi, parce qu'entre 2003 et 2010, alors que Planck était encore au sol pour la plus grande partie de cette période-là, WMAP a fourni une excellente carte des anisotropies de température du rayonnement fossile depuis L2, observé très très bien le spectre de puissance, donc là on compte les pics, 1, 2, 3, 4, peut-être un cinquième, et aussi a observé une propriété supplémentaire, assez mal, mais il a observé quand même, qui est la polarisation de ce rayonnement fossile. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Ça a été encore une révolution. On est passé le passage en fait entre cette mesure-là et cette mesure-là, c'est ce qu'on a commencé à appeler la cosmologie de haute précision. Alors on commence à avoir suffisamment d'informations, à voir suffisamment bien cette image du rayonnement fossile pour avoir des mesures extrêmement précises des paramètres décrivent notre modèle cosmologique. C'est une très grande avancée, c'est un résultat vraiment magnifique, et surtout, quand on connaît un peu le détail de la chose, c'est effectivement quelque chose qui a été construit pour être pas très très cher, donc dont l'analyse des données était quand même assez difficile, et c'est un très beau résultat. Et moi, je voudrais surtout vous parler de Planck, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et puis c'est aussi, quelque part, en tout cas pour la mesure des anisotropies de température du rayonnement fossile, quelque chose qui sera sans doute inégalé, parce qu'on ne peut pas vraiment faire mieux. Alors voici Planck, qui est un physicien allemand, mort en 1927, et qui a donné son nom au satellite européen dont je vais vous parler. Et c'est lui qui, entre autres choses, a déterminé la loi qui décrit le corps noir. Et c'est pour ça que, plein d'inspiration, il a été décidé de donner son nom au satellite que voici. Donc là, il était, je crois, en chambre d'intégration avant de faire des tests dans une chambre à vide et très froide. Et donc ce satellite Planck, je vous écris un peu plus. Alors lui, il a ramené énormément d'informations, une excellente carte du rayonnement fossile. Cette courbe que vous avez déjà vue, alors là, on est à 7 pics. Hein. Et puis beaucoup d'informations sur la polarisation. Et puis plein d'autres choses encore dont je vais vous parler. Donc ce satellite Planck, en fait, c'est un bébé d'à peu près 2 tonnes qui embarquait deux instruments qui étaient prévus pour 21 mois de mission, qui au final aura fait 5 observations complètes du ciel micro-ondes, plus 4 de plus avec un seul des deux instruments, ce qui fait beaucoup plus que 21 mois au final. Hein. On est presque à 3 ans. C'est un beau défi technologique. Il a mis, alors lui, il n'est pas du tout sur l'idée rapide, pas cher et bon. C'est plutôt lourd, cher et lent, puisqu'on a mis quand même 20 ans entre les premiers projets qui doivent dater de 93. Vous voyez juste après les résultats de Kobe et le lancement en 2013. Alors quand je dis 93, ça, moi j'étais pas, j'avais pas encore commencé ma thèse, mais c'est les premières ébauches qui ont été faites par des chercheurs de l'Observatoire de Paris, à côté Jean-Michel Lamar, de l'Institut d'astrophysique de Paris, Jean-Luc Puget, et puis d'ici François Boucher. Et il y a eu nombreuses itérations autour de ces premières ébauches. À un moment, ils devaient partir avec une mission franco-russe, puis ça a été une mission européenne. Enfin bon, nombreuses versions différentes. En tout cas, c'est quelque chose dont je crois qu'on peut être tous fiers européens de façon collective, qui coûte assez cher. C'est à peu près 1 milliard d'euros, le prix total pour les 20 ans. Et si on fait un ratio, c'est à peu près 8 centimes par européen et par an, tous les ans. Un peu cher, mais c'est pas mal. Et pour revenir à ça, 800, enfin 1 milliard d'euros, 8 centimes par européen et par an, je crois que ces outils-là, pas seulement Planck, hein, mais les satellites d'observation de l'univers qu'on lance, le LHC, ces énormes outils qui savent faire de la science, je crois qu'on peut les considérer aujourd'hui comme des sortes de merveilles d'aujourd'hui, parce que bah, les prix ne sont pas si élevés que ça, 1 milliard, puis 8 centimes, c'est pas énorme, mais c'est finalement ce qu'on est capable de se payer une fois qu'on a payé tout le reste, et je trouve assez... C'est bien qu'on le paye pour comprendre mieux l'univers. Enfin bon. En tout cas, il a mobilisé 16 pays, 400 chercheurs, et puis voilà le panneau officiel qu'on est censé montrer, avec des tailles de logos qui dépendent très précisément de qui a contribué, pourquoi, combien, où on est là-dedans. C'est des heures de discussion. Enfin bon, moi, je suis là. Pas mal. Hein, c'est assez gros quand même. Hein. Enfin bon. Donc, Planck a été lancé le 14 mai 2009 depuis Kourou en Guyane. C'était un chouette lancement, il a fait beau, ça s'est bien passé. Il y avait là des gens, j'étais là, j'avais de la chance, il y avait là des gens un peu partout, entre autres des gens de la NASA. Et il y avait un monsieur d'Ariane Espace qui était tout content de glisser un gars de la NASA. Vous voyez ce qu'on a fait avec Planck et Herschel, puisqu'il a été lancé avec Herschel. On va faire la même chose pour le JWST. Moyennement content. Enfin bon, le lancement était vraiment quelque chose d'incroyable et très bien passé. Et là, j'ai appris quelque chose, je pense que vous le savez déjà, mais moi, c'était nouveau pour moi, je suis un peu bête, c'est que ce qu'on achète, en fait, quand on achète un lancement, c'est tout bêtement un point dans l'espace des phases. On dit, je veux être à tel endroit, à tel moment, avec telle vitesse, et tel paramètre d'orbite, en gros, et c'est ça qu'on achète. Et les gens derrière l'espace étaient très contents de nous annoncer qu'ils nous avaient délivré au point de l'espace des phases avec une précision qui comptait en micromètres. C'était ridicule. Enfin bon. Donc on a été lancé effectivement avec Herschel. Donc Herschel est le grand frère ou le cousin de Planck. Alors voilà encore une histoire. Au moment où Planck a été proposé, Herschel aussi a été proposé. Herschel était un satellite qui observait aussi le ciel dans l'infrarouge. Mais alors que Planck essaie de couvrir tout le ciel et voir le rayonnement fond cosmologique, Herschel est plutôt un observatoire en fait qui a pointé ces caméras à différentes zones du ciel pour faire des observations infrarouges avec une résolution incroyable. Mais dans l'esprit des gens de l'ESA, c'était le même satellite. Donc à un moment, on a failli être... Parce qu'on observe dans l'infrarouge, pareil. Hein. Donc à un moment, on a failli être tous les deux sur la même plateforme, ce qui a été assez rigolo, hein, qui veut observer un endroit, puis l'autre qui veut voir tout le ciel. C'était pas bien pratique. Puis à un autre moment, finalement, on a dit qu'on allait faire le 2 pour le prix d'un. Au final, vous vous en doutez, ça a été le 2 pour le prix de 2,5. Mais il n'empêche, on a réussi à partir comme ça. Entre autres, puisque c'était le même satellite, on partageait la même plateforme. Mais alors, elle était beaucoup trop grande pour Planck et puis beaucoup trop petite pour Herschel. Donc, il y a un module supplémentaire sur Herschel qui coûte. Enfin, passons. On est parti. Ça s'est bien passé. On est parti pour aller à L2 du système Terre solaire. Le point de Lagrange du système Terre solaire, en fait, c'est ce point ici où on peut être en orbite autour du Soleil, sous l'influence de la Terre. Et donc, on va tourner la même vitesse que la Terre autour du Soleil. Alors, on n'est pas exactement à L2, bien sûr. Ce qu'on fait, c'est une orbite autour de L2. Alors, l'intérêt de ces points de Lagrange aussi, c'est qu'ils sont soit stables, soit instables. Le point de Lagrange 2, ici, il a le bon goût d'être stable dans une direction et instable dans l'autre, si bien qu'il est très propre. Parce que pour s'y maintenir, il faut pousser, sinon on s'en va. Donc, la poussière ne peut pas se maintenir au point de Lagrange 2, donc c'est un endroit qui est très, très propre. Puis nous, on a quand même des moteurs. Donc on n'a pas trop de mal à se maintenir, d'autant plus qu'on a à se maintenir en orbite sur ce point-là que dans une seule direction. Donc une fois qu'on était à L2, on s'est mis en rotation. en tournant bien sûr le dos au soleil, parce qu'on est en train d'essayer d'observer quelque chose qui est très froid. Donc en tournant le dos au soleil, on tournait comme ça, même pendant une heure, on faisait un tour, et puis évidemment, quand on fait 6 mois comme ça, peut-être couper la vidéo qui est un peu longue, enfin, vous vous en doutez, on finit par couvrir tout le ciel. Donc le satellite a fait ainsi 5 couvertures complètes du ciel. Il a continué à observer le ciel jusqu'au 23 octobre 2013. C'est une photo des dernières commandes qui ont été envoyées pour vider tous les réservoirs, écraser la mémoire du satellite pour éviter qu'il se remette en marche à cause d'un rayon cosmique qui tape au mauvais endroit. C'est une date facile à se souvenir puisque c'est l'anniversaire de mon père. Sur ce satellite, il y avait donc deux instruments qui sont présentés ici, donc au centre HFI, instrument haute fréquence, et autour LFI, un instrument basse fréquence. Les deux ont des fréquences différentes dans le spectre du CMB pour observer le CMB. Évidemment, moi j'ai travaillé plutôt sur HFI. Voilà un gros plan sur HFI, donc on le préparait. Voilà un écorché de cet objet. Alors, ce que vous voyez en fait, principalement la espèce de cage, là, ce treillis, c'est le système de refroidissement. Ces orgues sont des guides d'ondes qui amènent les photons du rayonnement fossile vers des détecteurs qu'on appelle des bolomètres. Je vais décrire ça rapidement. Donc en fait, pour voir ce rayonnement fossile et voir une petite variation autour de ce rayonnement fossile, il nous faut des détecteurs qui sont extrêmement refroidis. Alors l'espace, c'est bien parce que quasiment gratuitement, on descend, si on est assez malin dans la conception du satellite, on descend à 40-50 Kelvin, mais ce n'est pas suffisant. On veut aller à 100 millikelvin. Ce qui est vraiment très, très, très petit. Pour ça, on a un système de refroidissement à 4 étages, dont le dernier étage est une dilution entre l'hélium-3 et l'hélium-4, ce qui pose un problème, parce qu'il y en a un des deux qui n'existe pas. Pour le créer, il faut du plutonium. Pour avoir du plutonium, il faut des bombes. Donc les gens qui ont des bombes n'ont pas très envie de vendre de l'hélium-3, parce qu'ils savent combien ils ont de plutonium, et donc on sait combien ils ont de bombes. Heureusement, les Russes doivent détruire une partie de leurs bombes à l'issue des accords avec les Américains, et donc ils sont prêts à vendre de l'hélium-3. Mais alors pour l'acheter, ça a été un peu compliqué, parce qu'ils ont acheté tout d'un coup, comme c'est un truc qui n'a pas de prix, etc. Enfin, bon, on a réussi à avoir notre hélium-3. Et évidemment, comme le système, c'est de mélanger l'hélium-3 et l'hélium-4 pour refroidir, et au moment où on a mélangé tout notre hélium-3 et notre hélium-4, ben c'est fini, on ne peut plus refroidir et l'instrument s'arrête. Et c'est pour ça qu'on n'a fait que 5 observations du ciel. Ça, c'est pour cette partie-là. La suite, donc, ces cornets sont des guidons et des filtres qui amènent nos photons à des bolomètres. Des bolomètres, en gros, c'est quelque chose qui attend juste qu'un photon tombe dessus, ça réchauffe métal, et puis il y a un thermomètre extrêmement précis. On a deux types de bolomètres ici. On a des bolomètres simples et puis des bolomètres polarisés. En fait, on a deux bolomètres différents qui ont chacun une grille collectrice à 90 degrés l'une de l'autre et qui vont être sensibles à des photons qui sont polarisés dans linéairement dans une direction ou dans l'autre. Et donc Planck nous a donné ce résultat-là. Et ça, ce sont les cartes observées par Planck, par chacun des détecteurs de LFI en haut et de HFI en bas. Et on ne voit pas du tout le rayonnement fossile que je vous ai présenté depuis tout à l'heure. En fait, on voit surtout, et en particulier dans les détecteurs de plus haute fréquence, une espèce de gros machin rouge. Et ce gros machin rouge, c'est rien de plus que notre galaxie. En fait, quand on observe le rayonnement fossile, je vous ai dit avant, tout est bien, tout est rose, des photons, ils arrivent du fond des âges, on n'a plus qu'à les regarder. En fait, non, malheureusement, il y a plein d'autres choses qui ont le mauvais goût d'émettre aussi dans les longueurs d'onde du rayonnement fossile. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à séparer ces différentes composantes. Et c'est pour ça, en fait, qu'on utilise différents canaux à différentes fréquences. On n'a pas vraiment envie de revoir le corps noir observé par Kobe. Ça, c'est bon, c'est fait avec une précision incroyable. La raison pour laquelle on a plusieurs détecteurs, c'est qu'on veut voir des choses légèrement différentes. Alors ici, c'est un exemple. Ça, c'est la loi d'émission du rayonnement de fond. Ça, c'est la loi d'émission de deux avant-plans particuliers. D'autres images pour tous les avant-plans différents. Mais l'idée, c'est qu'en gros, dans chacune de ces cartes, on a un peu de CMB et un peu d'autre chose. Et le but du jeu, c'est de réussir à supprimer ces autres choses pour obtenir ici cette carte de rayonnement fossile. Alors on fait ça de plusieurs manières, mais je voudrais passer un tout petit instant sur comment on fait Comment on a fait cette très belle carte, puisqu'on a utilisé un algorithme qui est quand même un algorithme assez important en fait aujourd'hui, dès qu'on parle de big data, etc. C'est ce genre d'algorithme-là qu'on utilise. Et pour ça, je voudrais vous parler du problème de la soirée cocktail, qui n'est pas le problème de savoir ce qu'on va porter, mais plutôt de savoir, plutôt pour un espion, de savoir qui raconte quoi. Imaginons qu'on ait mis plein de micros dans cette soirée cocktail, comment on fait pour savoir exactement quel de ces personnages racontait quoi. Et bien, il se trouve qu'on a des méthodes mathématiques, en particulier l'analyse en composantes indépendantes, qui, en utilisant le fait qu'on mesure ici des choses légèrement différentes, qui sont la superposition de plusieurs signaux qui sont différents, et bien, en demandant à l'algorithme de séparer au maximum en des signaux les plus différents possibles, on arrive à reconstruire le signal de départ. Alors, vous voyez qu'il y a un changement de signe ici, parce que en fait, ce système-là n'est pas capable de donner le signe. Mais ce n'est pas très grave, puisque ce qu'on cherche, c'est des oscillations autour d'une moyenne. Et c'est exactement ce qui se passe ici, en donnant un modèle ici, en utilisant le fait qu'on ait plusieurs fréquences, on est capable de reconstruire un mélange qui, pour chaque échelle, chaque endroit dans la carte, si vous voulez, mélange différemment ces cartes pour obtenir cette carte ici, qui est quasi parfaite. En fait, on triche un petit peu. Au milieu, là, il y a quelques pixels qu'on n'arrive vraiment pas à déterminer. On les masque et on les remplit pour faire joli, mais on les utilise évidemment pas pour la science. Donc voilà cette carte splendide. Voilà le spectre de puissance de cette carte splendide. Voilà un des résultats principaux de Planck, qui est un accord incroyable avec le modèle. Voilà comment ceci se compare avec d'autres mesures, parce qu'évidemment, le rayonnement fossile, ce n'est pas que Planck. Il y a de nombreuses missions au sol, en particulier dans le désert de l'Atacama, avec l'Atacama Cosmology Telescope, et au pôle sud, avec le South Pole Telescope, qui observe aussi le rayonnement fossile. Alors pourquoi compléter les résultats de Planck par des données au sol? Mais en fait, Planck, encore une fois, il a été conçu à partir de 1993. On se doute bien que quand il part en 2009, il n'a pas la dernière technologie possible. On veut quelque chose de robuste qui va dans l'espace. Au sol, même si c'est au pôle sud, c'est un peu compliqué, on peut se payer des détecteurs de toute dernière génération. Et donc, on a des caractéristiques bien meilleures, mais sur de toutes petites surfaces du ciel. Et avec le problème qu'on a entre nous et le rayonnement fossile, non seulement tous ces avant-plans gênants, mais aussi l'atmosphère, qui a le mauvais goût d'être plein d'eau. Et si vous vous souvenez bien, un four à micro-ondes, c'est fait pour chauffer l'eau. Ça passe mal. Donc voilà en gros pour le résultat principal de Planck et comment il se compare aux autres. Et je voudrais passer quelques instants sur deux résultats supplémentaires de Planck, un peu plus techniques, mais qui sont assez intéressants parce que vraiment très nouveaux. Et une question qui est-ce que les dés cosmiques sont pipés? Alors, on sait que quand on tire un dé et qu'on regarde la probabilité de tomber sur chacune des faces, normalement on devrait tomber sur une distribution plate, on doit tomber de façon équiprobable sur chaque nombre. Évidemment, si le dé est pipé, ceci va être tordu et on devrait voir une face qu'on trouve plus souvent. Alors, quand on fait plein de tirages de dés et qu'on les additionne, qu'on fait aussi pareil, la distribution des résultats, on obtient par la grâce de la loi des grands nombres cette bonne vieille courbe en cloche, la gaussienne, qui nous dit qu'en gros, quand on ajoute plein de variables aléatoires, on va finir par obtenir une gaussienne. Eh bien, il se trouve que c'est exactement pareil pour le rayonnement fossile, et qu'on peut voir ce rayonnement fossile, encore une fois, dans la description de notre modèle, qui est une description quelque part qui est stochastique, comme l'addition de plein de tirages. Et donc ce rayonnement fossile, dans la théorie la plus simple, au premier ordre, il doit avoir justement cette distribution gaussienne. Et on peut se poser la question de, est-ce que par hasard, est-ce que des cosmiques ne seraient pas un peu pipés et on aurait des écarts à cette distribution gaussienne? Alors pour le faire, on le fait, on va chercher quelque chose qui est une non-gaussianité. Le problème de chercher quelque chose qui est une non-gaussianité, c'est comme de dire, je regarde des animaux et je cherche un non-chien. Qu'est-ce qu'un signe de non-chien? Les écailles, c'est un signe de non-chien, mais je connais plein de non-chiens qui n'ont pas d'écailles. Donc comment je fais? Alors malheureusement, ici, on était un peu obligé de dire, je cherche des écailles. On se construit des propriétés statistiques particulières qu'on va vouloir tester. Donc là, on a vu avant, qu'on regardait la probabilité que si on a un point chaud ici et qu'on a un point chaud, on ait un point chaud là. Maintenant, on va faire la même chose en regardant dans trois directions différentes du ciel. Et puis même ça, c'est encore trop de possibilités. Et on restreint ceci à des triangles de certaines propriétés, soit des triangles complètement écrasés, soit des triangles équilatéraux, soit des triangles rectangles. Et on est capable de prédire, dans le cadre de certains modèles, quelles devraient être ces probabilités. Et on est capable de tester ceci avec les données de Planck, donc c'est un test qui est extrêmement difficile à faire, et qui, dans le cas de Planck, nous dit que les dés cosmiques, dans la mesure où on peut le vérifier, ne sont pas pipés. Et ceci élimine toute une série de modèles, les plus compliqués évidemment, les modèles les plus simples restent, qui auraient pu créer des propriétés non gaussiennes dans le rayonnement fossile. Le meilleur résultat qu'on avait auparavant, c'est le résultat WMAP, c'est 37 plus ou moins 20. Là, notre résultat, il est de l'ordre de 2,7, donc c'est pour le même chose, hein, ce calcul dit local. On a un résultat de 2,7 plus ou moins 5,8. On a gagné un bon facteur 10 de précision sur cette mesure-là, qui est une mesure, je le répète, extrêmement fine. Une deuxième chose, et là je ferai encore un aparté, c'est de se dire, quand on regarde l'univers, en fait, on a envie de voir, comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie de voir la distribution de matière dans l'univers. Et voilà une image qui a été prise par un satellite de la NASA, qui est une assez belle image, qui au lieu de présenter la Terre de jour, on la présente de nuit. Et donc on voit bien tous ces phares. Et on voit assez mal les terres émergées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les terres émergées. Alors, en regardant les phares, on trace relativement bien les terres émergées, au moins en Europe et aux États-Unis, mais assez mal l'Afrique. C'est exactement ce qu'on fait en général quand on regarde les choses brillantes dans l'univers. On voit les phares, mais on ne voit pas toute la matière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de voir toute la matière ? Bien, il y en a un moyen qui consiste à regarder les effets de lentilles gravitationnelles. Ces effets de lentilles gravitationnelles, c'est en fait la perturbation de la trajectoire des photons dans les puits de potentiel gravitationnel du rayonnement fossile. Cette image d'artiste ici, c'est de nous présenter ça. On voit le rayonnement fossile ici qui met ces photons. Et puis, ces photons ne vont pas en ligne droite à cause des grandes structures et de leur effet gravitationnel. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va déformer l'image que l'on voit du rayonnement de fond. Un cas particulier de cette déformation, c'est les anneaux d'Einstein très connus, où là, on a un alignement parfait entre un objet lointain, un objet qui va massif, qui va servir de lentille gravitationnelle, et la lumière de l'objet lointain nous parvient comme un anneau autour du précédent. L'objet lointain est vraiment juste derrière. Là, c'est des effets beaucoup plus faibles, on a des toutes petites déformations. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement comme si on regardait dans une piscine, donc on voit un dallage ici, qui est légèrement déformé, et qu'on essaye de se dire, si je mesure les déformations de ce carrelage, je devrais être capable de reconstruire les perturbations dans la piscine. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et voilà le résultat. Ceci, c'est une carte de la distribution de matière dans l'univers qui est obtenue en analysant des toutes petites déformations de la carte de rayonnement fossile. Alors c'est quand même assez compliqué parce que la carte de rayonnement fossile, je vous l'ai dit, on ne la connaît pas. La vraie, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on voit, c'est celle qui est perturbée. Néanmoins, grâce à notre modèle et en observant justement les propriétés statistiques de cette carte, on est capable de mesurer une propriété qui est brisée par l'effet de lentille gravitationnelle, qui nous permet de reconstruire cette carte de la distribution de matière dans l'univers aux très grandes échelles. Et encore une fois, c'est une carte beaucoup plus bruitée, donc l'accord est moins bon. On a encore une fois un excellent accord avec ce qu'on attend. Et je voudrais passer maintenant sur l'actualité brûlante du rayonnement fossile, puisque tout ça, finalement, maintenant, c'est l'histoire ancienne, ça date de mars 2013, tout le monde sait ça, ça n'intéresse plus personne. Et pour parler de cette actualité brûlante, il faut que je vous reparle de polarisation. Donc, je vous ai dit, ce rayonnement fossile, ce qu'on voit essentiellement, c'est ce qui se passe sur cette surface de la diffusion, qui nous donne une photo des perturbations de matière à l'époque. Mais on voit un peu plus, en fait, on voit une propriété supplémentaire de la lumière, qui est sa polarisation. Alors, ce dessin est censé vous expliquer ce que c'est la polarisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne vais pas avoir le temps, mais en gros, en plus de l'information d'intensité, on a une autre information sur la lumière du rayonnement fossile, qui est la polarisation. Et tout ce que j'ai envie de vous raconter, c'est comment diable est-ce que cette polarisation se crée. En fait, sur la surface de la diffusion, il faut imaginer qu'on a des photons qui vont venir de toutes les directions et qui vont interagir avec un électron, par exemple. Et puis, ils vont faire vont diffuser sur cet électron, vont rebondir et nous arriver. La diffusion en question, c'est la diffusion Thomson, elle a la propriété de conserver la polarisation dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation. Alors imaginons que ce rayonnement sur la surface de la diffusion soit non polarisé. Donc il est polarisé dans tout autant dans les deux directions. D'accord ? Imaginons maintenant qu'autour de cet électron, bien, il y a une différence de température, qui est plus de photons qui arrivent dans une direction que dans l'autre, comme représenté ici. Et bien en fait, comme chaque direction va transmettre la polarisation transverse à la direction de propagation vers nous, chacun va donc transmettre qu'une seule partie de sa polarisation, Mais comme il y a plus de rayonnement dans une direction que dans l'autre, eh bien le résultat, c'est que le rayonnement qui va nous arriver est légèrement plus polarisé dans une direction que dans l'autre. Il y a un léger excès de polarisation. Alors ceci a été déjà mesuré par Planck, avec une incroyable précision encore une fois, encore qu'on n'ait pas exploité ces données. On a juste pour l'instant dit, ah bah oui, comme on s'y attend, on mesure cette polarisation. Elle est en assez bon accord avec notre modèle cosmologique, mais elle est compliquée à analyser et pour l'instant, on n'en fait rien de plus. Quelque chose qu'on peut faire, par contre, c'est puisque cette polarisation est liée à des excès de température sur la surface de la diffusion, elle doit être liée avec les anisotropies de température qu'on a vues avant. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sommer ces cartes de polarisation locales autour des points chauds et des points froids de notre carte de température et voir ce qu'on obtient. Et ce qu'on obtient, c'est une très bonne corrélation. Et on voit ici comment cette corrélation se compare avec une simulation. Donc les petites barres que vous voyez là, donc les différences là, ces différences de température, les petites barres que vous voyez autour, c'est la polarisation qu'on voit. C'est exactement ce qu'on attend. On a une très bonne polarisation. Mais cette polarisation, elle nous apprend en fait pas mal de choses. Et pour comprendre ce qu'elle va nous apprendre, il faut que je parle un peu plus de ses propriétés. Parler particulier du fait qu'elle se comporte essentiellement comme un champ vectoriel. Et qu'on sait bien qu'on peut séparer les champs vectoriels en deux composantes, une composante dite scalaire, qui dérive d'un potentiel, et une composante rotationnelle, qui ne dérive pas d'un potentiel. Une autre façon de le voir ici, c'est que si maintenant je présente ma polarisation comme des petits bâtons, je peux séparer la façon dont elle est organisée sur le ciel en quelque chose qui ressemble à des étoiles ou des cercles, et quelque chose qui ressemble à des tourbillons. Ça va vous rappeler quelque chose sur les choses qui sont rotationnelles ou pas. On va appeler ce qui ressemble à des étoiles ou des cercles les modes E et ce qui ressemble à des tourbillons les modes B. Et ils ont des propriétés de transformation par renversement, par effet miroir, qui sont très différentes. Ici, si je fais un effet miroir, ça ne change pas. Ici, si je fais un effet miroir sur le tourbillon du haut, je transforme dans le tourbillon du bas. D'accord ? Et surtout, ces propriétés géométriques sont importantes parce que ces deux différentes polarisations, donc c'est le champ de polarisation que j'ai séparé géométriquement en deux éléments différents, eh bien, elles proviennent de deux choses différentes qui expliquent les perturbations primordiales de la distribution de matière. Ces modes E, en fait, ils sont créés par tous les types de grumeaux primordiaux. Par contre, ces modes B, ils sont créés uniquement par les grumeaux primordiaux qui viennent des ondes gravitationnelles primordiales. Il se trouve que ces ondes gravitationnelles primordiales sont prédites, il doit y en avoir, on ne sait pas combien, mais il doit y en avoir. Elles sont prédites dans la plupart de nos modèles d'inflation les plus simples. C'est-à-dire, si on veut les enlever, il faut faire des choses compliquées. Les modèles d'univers primordiaux, ils ont envie qu'il y ait ces ondes gravitationnelles primordiales. Et donc, si on mesure ça, et quel est le niveau de ces ondes gravitationnelles primordiales, encore une fois, on va faire un grand ménage dans tous ces modèles que les théoriciens passent leur temps à créer, parce que ça ne coûte pas grand-chose de faire un modèle, mais 1 milliard de construire un instrument pour le mesurer. Donc c'est très très difficile à mesurer, et Planck a une sensibilité suffisante pour une distinction marginale pour des modèles qui font beaucoup d'ondes gravitationnelles primordiales. Et voilà que patatras, en mars 2014, alors qu'on est en train ici même de travailler, c'était entre deux conférences Planck, mais en tout cas on travaille beaucoup, pas ici, mais autour, BICEP2 annonce la détection de polarisation B d'origine cosmologique. Oh là là. Une importante couverture médiatique. Même Fox News, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Fox News aux États-Unis, qui en général parle plutôt de créationnisme, parle de la détection d'ondes gravitationnelles primordiales. Je me suis rendu compte du truc. On a parlé partout. Donc ça, c'est la carte de la polarisation de BICEP 2. Donc c'est les tourbillons qu'ils ont vus. Et puis alors, si on fait la courbe de ces de ce spectre de puissance, donc ces excès de probabilité que tu aies des points chauds là et des points chauds là, voici pour la polarisation, eh bien, ce qu'on attend, s'il n'y a pas d'onde gravitationnelle primordiale, c'est la courbe en très plein, puis s'il y a des ondes gravitationnelles primordiales, on a cette bosse ici, et les points noirs, c'est les points qui ont été mesurés, ha ha ha, pile poil sur la bosse. C'est une révolution, encore une fois. Là, tous les points là, c'était ce qu'on savait de mieux sur les ondes gravitationnelles primordiales la veille de l'annonce de BICEP. Puis là, les points ici, là, c'est ceux de BICEP. C'est une sacrée expérience. Effectivement, c'est une sacrée expérience. C'est un télescope qui est au pôle sud, encore une fois, sur la base américaine, au pôle sud. Une technologie qui est beaucoup plus moderne que celle de Planck. Elle observe qu'une fraction du ciel, donc 100 fois moins de ciel que Planck. Mais une caméra de 512 pixels qui sont beaucoup plus précis que les 11 pixels de Planck dans une seule fréquence. Donc au final, cette caméra, là, qui observe le ciel, est 30 fois plus précise que Planck, mais dans une seule fréquence. Ils ont fait un pari. On peut être beaucoup plus précis que Planck, on a une meilleure technologie. On ne peut pas observer tout le ciel, parce qu'on n'est pas, on n'est pas en orbite. Et ils ont voulu aller vite avant nous. Et ils ont fait qu'une seule fréquence. Mais souvenez-vous, il n'y a pas que le rayonnement de fond cosmologique qui émet dans les fréquences micro-ondes. C'est pour ça qu'on observe le ciel dans plusieurs fréquences. Alors, comme ils voulaient faire un pari quand même, ils ont été malins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'aller bêtement observer le ciel, le rayonnement fossile, à un endroit où on voyait beaucoup notre voie lactée, ils sont allés se mettre le plus loin possible, dans la région où, pensaient-ils, il y aurait le moins d'effets dus à la poussière de notre galaxie qui va être l'effet dominant qui va les gêner dans l'observation. Et pour faire ça, donc ça leur permettrait d'utiliser qu'une seule fréquence, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de séparer les composantes entre les composantes cosmologiques et les composantes astrophysiques, puisqu'il n'y a plus que la composante cosmologique, puisque c'est un endroit qui est propre. Mais pour faire ça, il faut pouvoir sélectionner une zone qui est propre. Et pour sélectionner une zone qui est propre, il faut savoir où. Et où est la poussière dans notre galaxie? Bien sûr, c'est dans le Planck galactique, mais elle va assez loin. Et pour savoir ça, il faut avoir les données de Planck. Mais il n'y a pas de données de Planck en polarisation. Donc ils ont pris les données de température. Cette carte-là, en fait, c'est l'intensité de la galaxie en température. Ils ont dit, là où il y a peu d'émissions en température, il va y avoir peu d'émissions en polarisation. Ils ont fait plus que ça. Ils ont aussi essayé de construire des modèles qui, à partir de l'avant-plan de température prédisait ce qu'il y aura en polarisation. Et ils arrivent, ça c'est plusieurs modèles avec des hypothèses différentes. Et voilà, tout petit, ne vous en faites pas, nous sommes bien en train de voir un signal cosmologique. Pour faire mieux, bien sûr, il faudrait avoir Planck. Et en fait, même eux, pour construire leur modèle, ils ont utilisé Planck. Alors Planck, malheureusement, va pas tout dire, parce que tous nos détecteurs ne sont pas polarisés, et en particulier les deux de plus haute fréquence, qui sont ceux qui sont les plus sensibles à notre galaxie, sont les deux qui sont non polarisés. Et donc le mieux qu'on ait pour voir la galaxie, c'est le 353 GHz qui est ici, mais vous le voyez ici, la galaxie domine presque partout, mais il y a quand même des zones où on voit derrière l'effet trigré du rayonnement fossile. Le 353 est un assez bon traceur, mais c'est le mieux qu'on ait de toute façon. Il n'empêche, pour faire ces modèles-là, il fallait quand même pouvoir deviner comment la température se traduisait en polarisation. Et pour ça, les gens de BICEP ont quand même utilisé des résultats de Planck qui ont été publiés, on peut dire, pas mégarde. En 2013, quand on a annoncé les résultats de Planck, on a présenté des résultats préliminaires parce qu'ils étaient censés être finis assez vite, parce que c'était assez simple, finalement. Et en particulier, cette carte-là, qui est dans un des transparents, vous pouvez le retrouver sur le web, qui contient notre vision à l'époque de comment l'intensité en température se traduisait en excès de polarisation. Les gens de BICEP sont allés chercher ce transparent, ils l'ont scanné, et ils ont essayé, à partir de ça, de construire un modèle de comment l'intensité de poussière en température se traduisait en intensité de poussière en polarisation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ces modèles. En mars 2014, l'analyse complète n'a pas encore été publiée par Planck. En mars 2014, on est en train de travailler d'arrache-pied pour avoir cette analyse complète, parce qu'elle est assez compliquée. Et donc, c'est à partir de ça qu'ils ont fait cette mesure-là. Malheureusement, les gens de BICEP 2 n'ont pas bien lu le transparent. Ici, il y a un petit point là, « Not CIB subtracted ». Dans cette carte, donc on a, par mégarde, laissé passer cette carte, on l'a laissé sur Internet, mais en fait, cette carte n'est pas complète. Il y a encore dans cette carte une pollution qui n'a pas de polarisation, qui donc diminue de beaucoup le lien entre l'intensité de température, d'avant-plan en température, et l'intensité de polarisation. Ils n'ont pas lu, ou ils n'ont pas vu cette remarque-là, et ça change énormément les conclusions pour leur modèle. En mai 2014, Planck publie cette carte. C'est l'analyse de la polarisation de la poussière dans les zones proches du Planck galactique. Donc c'est une certaine version de la carte que je vous ai présentée avant. Mais au lieu de couvrir tout le ciel, Elle couvre les régions où l'intensité de polarisation due à la poussière galactique est la plus forte. Je vous rappelle qu'on obtient ceci en utilisant une carte qui a encore beaucoup de rayonnement fossile dedans. Donc ces zones-là sont très difficiles à obtenir. On a publié ça parce que c'était le mieux qu'on pouvait faire à l'époque et qu'il y a énormément d'informations intéressantes non cosmologiques sur notre galaxie dans cette carte-là. Donc la zone d'observation de Bicep n'en fait pas partie, évidemment, ils sont allés chercher une zone propre qui est en dehors de tout ça. Mais quand la communauté regarde cette carte et voit la carte précédente, et qu'elle fait le lien et qu'elle lit la bonne remarque « Not CB subtracted », la communauté cosmologique mondiale commence à douter, et à douter énormément. Début juin 2014, en fait, des chercheurs hors Planck font le même travail que Bicep 2. Ils vont chercher ce transparent sur le site web de l'ESA. Ils l'analysent, ils lisent correctement la phrase et disent, étant donné les résultats préliminaires de Planck de mars 2013, le niveau de poussière présenté par Bicep 2 a été extrêmement sous-évalué. Mi-juin 2014, Jean-Loup Puget, le PI de Planck HFI, annonce dans un colloque à Moscou que des résultats préliminaires de Planck donnent un niveau de contamination des données Bicep 2 beaucoup plus élevé que celui obtenu par Bicep 2. Et fin juin 2014, le résultat sort, l'article Bicep 2 est accepté dans une version très révisée. Il faut bien voir que la première version de l'article Bicep 2 était triomphante. Commencer par pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de mesurer des signatures des ondes gravitationnelles primordiales. Cette recherche est maintenant terminée. Cette phrase a disparu dans la version qui est acceptée. Septembre 2014, Planck publie son analyse complète de la polarisation de la poussière dans les zones loin du plan galactique. La zone d'observation de Bicep 2 est couverte. Et la conclusion, c'est que Planck observe un niveau de contamination dû à la poussière d'un niveau au moins équivalent au signal observé par Bicep 2 et attribué à une origine cosmologique. On va revenir là-dessus. Voilà la carte qu'on présente, en fait, qui synthétise cette information. Ce qu'on voit ici sont les calottes nord et sud galactiques. La zone de Bicep 2 est ici. La partie grisée, ici, c'est la partie où la galaxie est forte. Donc on la cache, puisqu'on cherche des choses toutes petites. Évidemment, comme la résolution de Planck est bien moins bonne que celle de Bicep 2, on est obligé de moyenner dans des grandes zones de ciel. C'est pour ça qu'on a ici des gros pixels et qu'on n'a pas du tout la résolution qu'on avait avant. On ne peut rien dire, sinon. On moyenne dans des très gros pixels. Donc la zone couverte par Bicep 2 doit faire 5 ou 6 pixels à peu près. Ce qu'on montre ici, en vert, c'est les zones où la polarisation de la poussière est comparable au signal qui a été mesuré par Bicep 2. En rouge, c'est les zones où elle est 10 fois plus élevée. Et en bleu, c'est les zones où elle est 2 fois plus faible. Bicep 2 est dans une zone verte. Le résultat de Planck, c'est qu'on ne peut pas exclure que le résultat de Bicep 2 soit entièrement dû à la poussière. On ne peut pas non plus en conclure que le résultat de Bicep 2 est entièrement dû à la poussière. On est dans cette région parfaite pour les chercheurs, qui permet de demander plus d'argent pour obtenir de meilleurs instruments, parce qu'on ne peut absolument rien conclure. Mais en tout cas, on ne peut pas conclure que nous avons vu les ondes gravitationnelles primordiales, malheureusement. Mais on a vu quelque chose. Et c'est quand même une expérience de toute beauté. Expérimentalement, c'est quand même une grande réussite. Puis c'est pas de chance. Parce que s'ils avaient visé un peu à côté, ils auraient eu deux fois moins de poussière. Ils vont sans doute viser là la prochaine fois. Alors quand même, quelle conclusion il faut tirer de tout ça? Parce que ça fait un énorme tapage, on a parlé vraiment partout. Et la question c'est, est-ce que Bicep 2 a détecté des ondes gravitationnelles primordiales? Ce que je vous dis, peut-être, je n'en sais rien, je ne suis incapable de conclure aujourd'hui, et bien malin, qui pourrait dire quelque chose, et il faudrait qu'il le prouve. Pour l'instant, il y a sans doute un petit peu de onde gravitationnelle primordiale dans ce que Bicep a vu, mais on ne sait pas combien. Et si ça se trouve tellement peu, on ne peut même pas en parler. Comment savoir? Alors, Bicep 2 et Planck finalement collaborent. Au début, Bicep 2 ne voulait pas trop, mais vu ces résultats-là, ils ont très envie de collaborer. On est en train de confronter nos données pour affiner nos résultats et voir si on arrive à faire mieux en utilisant les deux jeux de résultats. La vraie question, en fait, est une question qui a animé beaucoup les débats scientifiques, les scientifiques, mais pas méta-scientifiques, si vous voulez, c'est est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Parce que tout de même, c'était une annonce fracassante. Ils annonçaient que c'était fini, on avait tout vu, passé à autre chose. Les expériences concurrentes aux États-Unis, qui sont en train d'essayer d'avoir le même la même somme d'argent que Bicep 2 pour observer essentiellement les mêmes choses, n'étaient pas contentes du tout. Imaginez, ils disent qu'ils ont fini. Alors, sauf que ce n'était pas bien assuré. Il y a eu énormément d'articles, évidemment, écrits sur les résultats de Bicep 2 qui se sont révélés caducs. On a vu des comportements de journaux pas infiniment reluisants, avec des papiers qui, même pas très très bons, passaient très très vite parce qu'ils utilisaient les résultats Bicep 2. Des choses très chaudes. Mais surtout, il y a eu cette annonce fracassante sur tous les médias. Alors, au final, moi, je donne mon avis, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu dysfonctionnement. C'est le fonctionnement normal de la science. Au moment de la soumission des résultats de Bicep 2, aucun article contrôlé par la communauté ne permettait d'invalider les conclusions de Bicep 2. Effectivement, Bicep 2 partait d'informations qui, de toute façon, n'avaient pas été contrôlées, pas été publiées, pas été revues. C'était juste un transparent présentant des résultats préliminaires. Plus ordonné à eux, bien sûr, mais un point important, c'était ce transparent-là. Dans le cours de la relecture d'un papier, surtout d'un papier aussi important, il arrive qu'on se rende compte que les auteurs se sont trompés. C'est normal, c'est comme ça que la science marche. Les chercheurs de Bicep 2 sont des gens extrêmement sérieux, ils ont fait leur travail très proprement, ils se sont sans doute un peu emballés, même beaucoup. Et on peut peut-être leur reprocher d'avoir organisé un grand tapage à Harvard en invitant le banc, l'arrière-banc et l'arrière-arrière-banc des médias américains en faisant des annonces fracassantes. Et ça, bon, ils sont emballés et c'est eux qui sont les plus embêtés aujourd'hui. Mais d'un point de vue scientifique, le fait qu'on annonce quelque chose, alors le problème c'est qu'on l'a annoncé en dehors des cercles scientifiques, mais le fait qu'on annonce un résultat et qu'ensuite ce résultat, après réanalyse et observation par des gens extérieurs à l'expérience, bah oui, il arrive que ce soit faux. Et les gens sont humains, hein. Il est normal que des fois on s'emballe. C'est très très difficile de garder la tête froide, surtout quand on est si près d'un résultat aussi incroyable. Et puis, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Parce que un des points importants de leur analyse, quand même, en plus de mesure de la poussière, c'est qu'ils avaient sous le coude un autre jeu de données qui a une fréquence différente. Pas assez haut en fréquence pour bien voir la poussière, mais une fréquence différente quand même. Et cet autre jeu de données qui est présenté dans les petits points là qu'on voit pas très bien, il disait à peu près la même chose. Et en plus de ça, leurs résultats, là, ils avaient des problèmes, ils avaient des choses, ces points-là, ils sont vraiment aberrants. Mais dans cet autre jeu de données, ces points aberrants-là, ils disparaissaient. Donc ils avaient sous le coude un autre jeu de données, dont ils n'avaient pas fini l'analyse, mais qui semblait leur dire que oui, vraiment, il y a quelque chose ici. Et ça, ça les a beaucoup renforcés dans leur certitude. Et puis aussi, si ça... C'est dû à la poussière. Cette forme-là, cette bosse-là, a le mauvais goût d'être vraiment caractéristique de ce qu'on attend comme signature. Et effectivement, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Parce que quand on regarde ce que dit Planck, les barres bleues, là, les grosses barres bleues, c'est ce que dit Planck. Vous voyez ? Un excès là, et puis un déficit ici. La poussière, la polarisation due à la poussière de notre galaxie, dans les ondes gravitationnelles, dans les modes B, a le mauvais goût de reproduire cette bosse. Pas de chance. Donc là, l'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est que Planck va livrer ses prochains résultats, y compris la polarisation, pas toutes, en décembre. Bicep 2 et Planck collaborent pour partager leurs données. De nombreux autres observatoires, peu le sud des aires d'Atacama, scrutent actuellement le ciel micro-ondes. Et vu les cartes que Planck a fournies de la polarisation de la poussière, vous pouvez deviner où ils vont pointer leur télescope. Et puis, évidemment, le juge de paix pour tout ça, ça va être de nouvelles missions satellites. Alors, pourquoi de nouvelles missions satellites ? D'abord, parce que ces ondes gravitationnelles font un effet qui est aux très, très grandes échelles. Donc, il faut voir d'assez grandes surfaces du ciel. Et ça, c'est difficile d'obtenir seulement de la Terre. Et puis ensuite, parce que, je vous l'ai montré, pour bien voir ces ondes gravitationnelles primordiales, il faut bien séparer ce qui vient de la poussière de notre galaxie et ce qui est d'origine cosmologique. Pour faire ça, il faut observer le ciel à des hautes fréquences. Et pour observer le ciel à de hautes fréquences, il ne faut pas avoir de vapeur d'eau entre nous et le rayonnement fossile. Donc il ne faut certainement pas être à terre. Il faut être soit dans un ballon vraiment très haut, soit avec un satellite. Il faut aller chercher des hautes fréquences. C'est impossible à obtenir du sol. Le juge de paix sera un satellite. Donc il y a plein de projets satellites. Aucune n'est sûre de voler pour l'instant. Mais le fait qu'il y ait quelque chose qui est peut-être pas loin aide. Et je vais m'arrêter là, je suis déjà très en retard de 20 minutes, et je ne vous ai même pas parlé de nombreuses choses, qu'ils sont aussi observés comme ricochet, comme information supplémentaire dans ces données du rayonnement fossile, qui justifie en fait qu'on dépense 1 milliard pour faire ce genre de mesures, parce qu'il n'y a pas que la mesure du rayonnement fossile, sa polarisation qu'on a dans les données de Planck. Il y a toutes ces choses-là, la lumière zonascale, donc la physique de notre galaxie, on en a parlé beaucoup, hein, pas que la poussière, il y a énormément de choses là-dedans. Il y a la physique des galaxies jeunes, l'étude des amas supermassifs, l'étude de la distribution des grandes structures de l'univers, le prix statistique fini du rayonnement fossile et son lien à l'univers primordial, j'en ai dit quelques mots, la masse des neutrinos. Une des façons d'obtenir la masse de neutrinos, c'est de faire de la cosmologie, l'énergie sombre, l'accélération, l'expansion de l'univers, etc., etc. En tout cas, une partie de tout cela, pas tout, loin de là, avec les nouveaux résultats de Planck, sera dévoilé le 1er décembre 2014 à cette conférence à Ferrare. Et peu de temps après, fin décembre, dans ce même amphithéâtre, chercheurs du monde entier, dans un beau renversement de causalité, discuteront des conséquences de Planck sur l'univers primordial. Vous admirez l'ironie de la chose. Et donc, il y a effectivement une actualité brûlante pour ce rayonnement du fond des âges. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Karim, pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des commentaires dans la salle ?
Je serais intéressé à savoir quel était le diamètre l'étendue de l'univers à 380 000 ans après le Big Bang. En a-t-on une idée ? Il semble quand même qu'il était inférieur à 1 milliard d'années, lumière.
Oui.
Bon. Alors, comment explique-t-on qu'un univers d'un diamètre inférieur à 1 milliard d'années-lumière, comment explique-t-on que des photons, qui soient partis des points les plus extrêmes, ne nous soient pas encore parvenus après 14 milliards d'années ?
Alors,
ça me paraît difficile, non ? Comment l'explique-t-on ?
La zone causalement connectée faisait effectivement 400 000 années-lumière. C'est la zone causalement connectée qui est importante. C'est-à-dire les points d'espace qui ont eu le temps d'interagir entre eux. L'univers était beaucoup plus grand que ça. En fait, ce qu'on voit justement, c'est ces points chauds, ces points froids qui ont une taille caractéristique de 1 degré sur le ciel, c'est justement ça qu'on voit, ce sont les zones causalement connectées. Alors le truc qui est encore plus mystérieux, c'est que non seulement on voit des zones causalement connectées de cette taille-là, mais on voit aussi, puisqu'on voit sur le ciel de là et de là, des zones qui ont l'air d'avoir des corrélations, donc qui sont causalement connectées, des choses qui sont beaucoup plus grandes que l'univers à cette époque-là, doivent être causalement connectés. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de ce modèle d'univers primordial qui s'appelle l'inflation. L'inflation répond à cette question en créant une expansion de l'univers qui va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière et qui nous donne, on parle d'expansion supraluminique, nous donne donc des zones qui ont pu être causalement connectées à un moment et qui se retrouvent, par le fait de cette expansion extrêmement accélérée, en dehors de la zone causalement connectée. Ce modèle marche extrêmement bien. C'est très franchement, donc on a à partir de Planck des façons de tester ce modèle-là, et c'est et de loin le modèle qui explique ce spectre du rayonnement fossile qui marche le mieux. Tous les autres modèles qu'on a essayés, et je peux vous dire qu'on a essayé énormément. Parce que c'est une expansion ultraluminique, ça ne va pas du tout, c'est pas bien du tout. Ça nous gêne beaucoup, c'est un des mystères qu'on a envie de résoudre. Cette chose-là nous gêne, on aimerait bien comprendre, mais il n'empêche, c'est le modèle qui explique le mieux notre univers aujourd'hui. Je veux dire qu'il reste des points noirs dans notre modèle, et je serais tout à fait d'accord pour l'admettre. Moi, j'en compte assez facilement 3. J'ai besoin de cette inflation, qui fait quand même des choses assez incroyables, mais qui marche très bien. Et j'ai besoin de matière noire, qui est une matière dont je ne connais pas les propriétés, à part qu'elle interagit gravitationnellement avec l'univers, avec le reste de la matière, mais pas d'autres interactions parmi les interactions qu'on connaît très bien. Je ne sais pas quelle est cette matière, et les gens sont en train de chercher, de savoir ce que ça pourrait être, essayer d'en mesurer les effets. Et puis j'ai besoin aussi d'énergie sombre, parce qu'on a mesuré récemment une accélération de l'expansion de l'univers depuis un gros redshift de 10. Et ça aussi, pour ça, il faut un fluide qui est en train de forcer l'expansion de l'univers. Ça fait 3 mystères assez désagréables. C'est pour ça qu'on continue à faire ces mesures.
D'autres questions, remarques ?
Comment est-ce qu'on peut déduire la courbure de l'univers à partir de la position des pics dans le spectre de puissance.
Là, encore une fois, ça c'est le premier pic. Donc l'idée, c'est on voit cette zone causalement connectée qui est à peu près à 1 degré sur le ciel. On fait un triangle. On connaît le décalage vers le rouge. On sait quand le rayonnement fond a été émis, puisqu'il doit être émis au moment où l'univers s'est tant étendu. Il est à 3000 Kelvin. On sait quand il a été émis. On regarde la température aujourd'hui, donc ça nous donne le décalage vers le rouge. D'accord ? On sait à quelle distance il est dans ce modèle-là. On mesure l'ouverture angulaire. On a tous les éléments de notre triangle. Et les deux choses, l'une, soit la somme des angles du triangle fait pi, soit ça fait pas pi. Là, ça fait pi. L'univers est plat. C'est comme ça qu'on mesure la géométrie de l'univers.
D'autres remarques ou questions? Moi, j'en aurais une, peut-être, sur les... Je passe le micro là-haut tout de suite. Sur les ondes gravitationnelles primordiales. Donc, tu nous as présenté cette controverse qu'il y a eu avec Bicep, entre Bicep et Planck. Dans le fond, je pense que personne ne doute que ces ondes gravitationnelles primordiales existent.
Alors, oui. Enfin, elles doivent exister, sauf si on est dans un modèle d'univers vraiment très particulier. Elles pourraient être tellement petites qu'on ne puisse jamais les voir. Il peut y en avoir une quantité arbitrairement faible. Mais oui, a priori, dans le cadre du modèle d'inflation, il doit y en avoir. Maintenant, le problème de ces modèles-là, c'est qu'ils ont pas mal de paramètres libres, et en particulier, combien de gravitationnels primordiales ils font. Alors, on est capable, dans certains modèles très particuliers, à la suite de calculs épiques, d'avoir de vagues estimées. Et certaines personnes ici disent « Ah, mais je sais très bien combien d'avoir d'ondes gravitationnelles primordiales. » Enfin, pas ici, dans le monde. Un chercheur en particulier qui sait tout, qui peut-être a raison d'ailleurs, parce que ses arguments sont assez convaincants. Mais on peut créer énormément de modèles différents qui ont beaucoup plus d'ondes gravitationnelles primordiales. Bon, ceux-là, ils sont déjà morts. Beaucoup moins d'ondes gravitationnelles primordiales. C'est toute la question, en fait, de... comment se convaincre qu'il faut dépenser tant d'argent pour aller chercher ces ondes gravitationnelles primordiales. Si on savait dire quelle est la quantité qu'on attend vraiment, ce serait beaucoup plus facile de savoir ce qu'il faut construire comme instrument, combien il va coûter, est-ce que ça vaut le coup de le faire. Là, on a vraiment... encore une fois, donc en 2001, on avait eu une réflexion dans la communauté française. En 2003, il y a eu une grande réflexion de la communauté française sur comment est-ce qu'on va faire après Planck, quelle précision il nous faut si on veut voir des ondes gravitationnelles primordiales. On avait fait une réunion entre des chercheurs qui travaillent sur l'observation du CMB, des théoriciens qui prédisent le niveau d'ondes gravitationnelles primordiales. Moi, j'étais là parce que je fais des effets d'antigravitationnel et qu'il se trouve que c'est aussi quelque chose qui perturbe la mesure des ondes gravitationnelles primordiales. Donc, il fallait savoir si on pouvait les enlever ou pas. Et on est arrivé à la conclusion déprimante que les théoriciens disaient « Ah bon, moi, j'ai 10 ordres de grandeur pour la quantité d'ondes gravitationnelles primordiales. » Alors, depuis, ça s'est beaucoup réduit parce qu'encore une fois, les modèles qui ont tendance à prédire beaucoup trop ou pas assez d'ondes gravitationnelles primordiales, ont tendance aussi à prédire, par exemple, beaucoup trop de non-gaussianité. Et comme Planck nous a dit qu'il y avait très peu de non-gaussianité, un niveau indétectable pour l'instant, on a pas mal réduit l'espace des possibles. Et puis Planck aussi nous a appris beaucoup de choses sur les modèles d'inflation possibles, donc on réduit l'amplitude, où il faut aller chercher. Mais il n'empêche, on n'a pas d'idée pour l'instant, et on aime bien savoir. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'à partir de toutes les mesures qu'on a, comme ces ondes gravitationnelles primordiales créent non seulement de la polarisation B, mais aussi en très faible quantité de la polarisation E et des anisotropies de température du rayonnement fossile, on est capable de mettre une contrainte très très faible sur ces ondes gravitationnelles primordiales, et on sait qu'il ne peut pas y en avoir plus qu'une certaine quantité. Et d'ailleurs, un des problèmes du résultat de Bicep, c'est qu'ils en trouvaient un petit peu trop.
Philippe Garnier, des écarts de température de 2·10⁴, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fin. Donc ma première question, ça serait quid de l'incertitude, puisqu'à la fois on a l'incertitude sur les instruments de mesure et puis les incertitudes sur les traitements, puisqu'il faut dépouiller pas mal de signal pour arriver à ça. Donc quid des incertitudes, et puis deuxièmement, 2·10⁴ dans le rayonnement reçu, ça veut dire quels écarts dans l'univers primordial à proprement parler de température?
Ouf. Ben, il faut les décaler vers le rouge. Donc il y a un facteur 1000. De 3000 Kelvin, on passe à 2,7 Kelvin. Donc là, on remonte à fraction millième. Ça, c'est facile. En plus, je suis très mauvais pour les ordres de grandeur. Au fait, il était bien. Alors, pour ce qui est des incertitudes dues au bruit instrumental et au traitement, oui, c'est un gros problème. C'est-à-dire pour ça que, alors que les données sont maintenant complètes, hein, on a fini de les collecter en 2013 pour le relevé étendu, mais en fait, les données qui vont être publiées là, cette fois-ci en 2014, c'est des données qu'on a fini de collecter en 2012, hein, 2 ans plus tard, et les données qui ont été distribuées en 2013, c'est des données qu'on avait fini de collecter en mi-2010. La différence entre les deux, c'est le temps pour s'assurer qu'on a effectivement compris nos données, bien fait notre mesure. Alors, on n'est pas complètement aveugle. Cet instrument, on l'a calibré énormément au sol. On sait beaucoup de choses sur cet instrument. On connaît les propriétés de ces détecteurs. On connaît sa configuration géométrique, donc son lobe instrumental, la forme de son antenne, si on veut. On connaît énormément de choses. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'on va le poser sur un pétard, qu'on va allumer tout ça, qu'on va le secouer dans tous les sens et qu'il va finir à L2. Donc, les propriétés de cet instrument ont changé. Et donc, le gros, en fait, de l'analyse instrumentale, c'est de caractériser l'instrument. En fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, on mesure le ciel, mais à partir des mesures du ciel, ce qu'on veut vraiment mesurer très bien, ce sont les propriétés et obtenir la meilleure modélisation possible de l'instrument. La meilleure modélisation possible de l'instrument, c'est, entre particuliers, oui, les propriétés du bruit. Donc, on dit, on a une idée des propriétés du bruit, et puis là-haut, on essaye de réobtenir une nouvelle mesure des propriétés du bruit. Alors le mieux, ça serait d'observer des choses qu'on connaît, puisque si on les connaît, bon, on les soustrait, et puis c'est fini. Donc de peau, on observe le rayonnement fossile qu'on ne connaît pas. Alors on le connaît un peu, mais pas complètement. Mais on est quand même aidé pour ça, là-dedans. On a plusieurs détecteurs, ils observent la même chose. Et puis on observe plusieurs fois le même ciel, qui doit être le même. Donc on peut faire des soustractions de ces différentes observations à différents moments pour essayer de reconstruire les propriétés de l'instrument le mieux qu'on peut. Donc de peau, cet instrument, il évolue aussi dans le temps. Donc tout ça est pris en compte, et ça fait qu'on met un temps infini pour s'assurer qu'on a effectivement la bonne incertitude sur notre instrument, que les barres d'erreur que je vous présente ici sont les bonnes. On est capable, à partir des caractéristiques techniques sur le papier d'instrument, de prédire toutes ces barres d'erreur. Tout le travail, c'est de s'assurer que ce sont bien celles-là, pas d'autres, donc il ne faut pas les faire plus grandes, plus petites, plutôt plus grandes en général, malheureusement, et que non seulement ce sont les bonnes barres d'erreur, mais qu'il n'y a pas de corrélation spurieuse entre les données. Et il y en a. Et la question, c'est comment est-ce qu'on construit des corrections ou des mesures qui diminuent ces corrélations, ou comment on prend en compte ces corrélations dans l'analyse finale. Donc en fait, oui, vous avez mis le doigt sur le point, pourquoi c'est si lent, pourquoi on met tant de temps, parce que cette phase d'analyse est vraiment très très lente. Et puis à la fin, même si on est capable de modéliser chacune des étapes, le pipeline de traitement de données est tellement complexe qu'on n'arrive pas à vraiment propager très correctement les erreurs et qu'on finit par recourir à des systèmes où on fait des simulations massives. On simule le ciel, on simule les effets instrumentaux du mieux qu'on peut, et puis on applique nos processus de reconstruction des cartes là-dessus, et on voit de combien on diffère du début. Ça a l'air un peu basique comme ça, mais quand on a trop de choses qui sont chacune simples, mais qui en tout font une certaine complexité, on est finalement obligé de recourir à ce genre de méthode de Monte Carlo. C'est exactement la même chose que ce que fait la physique des particules pour mesurer, par exemple, les propriétés du Higgs. Ce sont des instruments qui sont tellement compliqués qu'au final, même si on sait modéliser très bien chacune des étapes, pour voir comment chaque étape parle avec l'autre, on n'a pas d'autre choix que de faire des simulations massives.
Bien, je vous propose d'arrêter là, sauf s'il y a encore une question vraiment brûlante qui vous brûle les lèvres. Donc merci d'être venu ce soir, et puis merci encore à Karim pour cette conférence. Merci.